Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme, ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles sont entrepreneuses, artistes, altruistes, courageuses, têtues, ambitieuses, passionnées. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leur victoire comme leurs doutes. Parole de femme.
Charline, vous faites partie de cette catégorie de personnes ayant choisi un métier qui a du sens. Un métier qui change la vie des autres, car vous vous intéressez profondément à eux. Vous êtes aujourd'hui infirmière libérale épanouie, souvent sur la route, un peu en cabinet. Pourtant, ce métier n'a pas toujours été une évidence pour vous. Une voie que vous embrassez sans retenue, puisqu'en plus de prendre soin de vos patients, vous mettez beaucoup d'énergie à faire connaître votre métier par le biais de votre blog « C'est l'infirmière », auquel viennent s'ajouter la publication de 2 livres chez Flammarion. Vous cartonnez sur Instagram et vous avez été un temps l'infirmière francophone la plus suivie sur Facebook. Charline, bonjour.
Bonjour Clémence.
On aurait pu penser que le métier d'infirmière était une vocation, et pas forcément chez vous, parce que vous avez commencé par faire un BTS en management. Ouais. Ensuite, vous avez travaillé 2 ans en pompe funèbre, et c'est finalement plus tard que vous devenez infirmière. Quel est le moment charnière ?
En fait, je suis pas arrivée vers ce métier d'infirmière par amour, mais plus par expérience. Il faut savoir que moi, je suis une ancienne patiente. Donc j'ai découvert le métier de soins, mais de l'autre côté des barrières du lit d'hôpital. Et quand j'étais petite et que je subissais les opérations et les soins infirmiers, c'est vrai que la plupart du temps, je me disais qu'il fallait être quand même sacrément malade pour oser faire un métier où on prend plaisir à faire mal aux gens. Donc non, le métier d'infirmière n'était pas dans le haut de la liste des métiers que je souhaitais faire. Mais c'est venu un peu plus tard, où dans le cadre d'études de commerce que j'ai fait un peu par défaut, j'ai été amenée à travailler pendant 2 ans dans une entreprise en pompe funèbre en tant qu'assistante funéraire. Et c'est en allant chercher les corps de mes clients que j'ai découvert le métier de soin. Quand j'allais chercher mes clients en EHPAD ou dans les services hospitaliers, j'ai découvert le métier d'infirmière et je commençais à le regarder un peu différemment. Et comme je me voyais pas travailler dans le commerce parce que je voulais pas faire fonctionner une pompe à fric, ça m'intéressait pas, pour moi ça avait pas de sens, je me suis dit que finalement, travailler dans l'humain, dans l'approche de l'autre au niveau du soin des corps, le métier d'infirmière cochait vraiment toutes les cases. J'étais quand même vouée à avoir un CDI après ma formation et je me suis dit, bon, je tente les concours d'infirmière, puis on verra bien si je suis prise, tant mieux, et si je suis pas prise, bah, je continue dans ma voie d'assistante funéraire. Et puis les 2 concours que j'ai passés, je les ai eus. Donc j'ai vu ça comme un signe qu'il voilà, il fallait que je change de voie.
Vous aimez pas vraiment le terme vocation pour le métier d'infirmière, pourquoi ? Parce que c'est souvent comme ça qu'on qualifie les métiers dans le médical.
Ouais, je l'aime pas trop ce terme. Je trouve qu'il est alors déjà trop rattaché au côté religieux de notre métier, parce que faut quand même savoir que nos premières infirmières c'était les cornettes, hein, c'était les bonnes sœurs, et je trouve que ça nous colle encore un peu trop à la couenne, cette image justement de cornette corvéable. Quand on exerce un métier qu'on dit de vocation, on oublie aussi que les personnes qui pratiquent ce métier ont des faiblesses, des grandes difficultés. C'est pour ça que ce terme me gêne un peu.
Pourtant, vous avez quand même un métier qui est au-delà de vos soins. Surtout, vous êtes infirmière à la campagne. Vous travaillez avec des personnes âgées, des personnes solitaires. Votre métier, il est au-delà du simple métier d'infirmière, non ?
J'ai des collègues qui vont au-delà de leurs soins. C'est-à-dire que quand on est face, comme vous disiez, à des personnes qui sont isolées, à la campagne notamment, qui vont aller chercher le pain, sortir le chien, préparer le petit déjeuner. Là, on est au-delà du soin. Moi, c'est des choses que je veux pas faire. Si je leur tends la main, j'ai peur qu'ils m'arrachent le bras. J'ai peur qu'en commençant à leur prendre le courrier, je me retrouve à faire la caisse du chat ou à aller leur acheter le pain parce qu'ils peuvent pas bouger. C'est une réalité qui est triste parce qu'il y a des gens qui sont isolés dans les campagnes, ou ça peut être également en ville, hein, qui parfois n'ont plus de famille. Mais ce que j'essaie de me rappeler, c'est que moi, je suis pas là pour me substituer à un manquement de famille ou je sais pas. Et le risque, c'est de se perdre. Moi, j'ai pas envie de ça. Si je veux pouvoir bien continuer à prendre soin des gens, il faut aussi que je me préserve. Et ça passe par rappeler régulièrement aux patients que je suis là dans le cadre d'un soin et que ces petits trucs bonus, ça en fait pas partie. Et la phrase magique que j'utilise pour ces patients qui me disent « Bah, est-ce que vous pourriez me prendre le courrier en passant ou m'acheter le journal ?» Je leur dis « Mais est-ce que vous demanderiez ça à votre médecin ?»
Ça vous est arrivé de vous laisser surprendre et d'être plus présente que prévu auprès d'un patient ou de dépasser les limites que vous étiez fixées ?
Ça m'est arrivé. J'ai découvert qu'on pouvait créer des amitiés avec certains patients. Ça se fait heureusement pas beaucoup parce que sinon je crois que je me perdrais complètement. C'est une gymnastique qui est vraiment pas évidente parce que il faut se positionner en tant qu'infirmière pendant le soin pur. Et après, on se dit, on change de casquette et on se met dans la casquette de l'infirmière amie. Enfin, d'ailleurs, je suis en train de faire un gros
lapsus. Tout court.
Ouais, de l'amie tout court. C'est-à-dire, maintenant, je me pose, là, je suis plus ton infirmière, on discute entre potes. Et ces deux personnes que j'ai malheureusement perdues, qui sont décédées depuis, la perte de ces deux personnes, à chaque fois, ont remis en question l'idée que peut-être un jour, je pourrais arrêter ce métier. Tellement ça a été difficile. Mais je pouvais pas lutter, c'était une amitié qui s'est créée d'elle-même. Ça s'est fait comme ça, naturellement, quoi.
Infirmière libérale, donc vous avez 10% en cabinet et 90% à domicile. Le fait d'apporter des soins à domicile, ça complique pas encore un peu ces relations? Ça les rend pas plus intimes?
Ça les rend plus simples. Quand on passe la porte des maisons, on rentre dans l'intimité des familles. Hein. Et donc les gens se livrent plus facilement. C'est pas du tout la même relation de soins que j'avais avec mes patients à l'hôpital, où on a beau dire que c'est leur chambre, ça reste quand même les chambres d'un service hospitalier. À la maison, c'est complètement différent. On connaît la famille, on connaît le nom du chien, on connaît la maison. Et ça crée des relations qui sont, je trouve, plus simples et plus belles. Il n'y a pas cette barrière que la blouse blanche et que le service nous impose. On découvre les gens plus rapidement aussi. Ça fait des relations de soins plus simples.
Vous avez été infirmière à l'hôpital, en ville et aujourd'hui à la campagne. C'est pas le même métier ?
C'est pas le même métier. Et puis, vous pourriez me reposer la question dans un an, je vous dirai la même chose. En fait, c'est un métier qui nous force à évoluer. Déjà parce que quand on débute le métier, on a l'impression qu'on sait plein de choses. En fait, on sait rien. Et on apprend au fur et à mesure des prises en soins des patients. Moi, je continue à apprendre encore. Alors, pas tant sur les gestes techniques, parce que maintenant, je commence à bien connaître. Mais par contre, sur ma façon d'être avec les gens, sur la relation de soins, je pense que dans 20 ans, si je suis encore infirmière, j'apprendrai encore des choses. L'humain, on le connaît jamais vraiment bien. Hein.
Dans le cadre de votre profession, vous êtes seule, puisque vous êtes infirmière libérale. Est-ce que ça vous est arrivé de vous sentir en insécurité?
On ne sait pas chez qui on rentre. Et il y a malheureusement des affaires d'infirmières libérales agressées, tuées, il y en a eu. Donc je garde toujours ça en tête, hein, dans un petit coin de ma tête, que voilà, faut se méfier. Surtout quand on ne connaît pas les patients. Et je fais toujours attention d'être du bon côté de la porte, de veiller à ce que les gens n'enferment pas la porte. Donc je leur rappelle, laissez ouvert, c'est quand même mieux. Et quand je sens pas quelqu'un, je ne rentre pas. Ça m'est arrivé, ouais, de dire aux patients que je sentais alcoolisé, pas bien, dire « écoutez, vous n'êtes pas en état de m'accueillir, je repasse demain ».
Vous avez exercé dans des zones plus compliquées, plus dangereuses qu'ici à la campagne. Vous avez trouvé que cette période-là était plus difficile ?
Elle était difficile, mais elle était super intéressante. J'ai travaillé en cité pendant 3 ans, dans une cité dite sensible, où même la police a beaucoup de mal à entrer. Et j'ai aimé le côté social. J'ai beaucoup aimé la relation avec les patients. Mais je me suis aussi beaucoup épuisée. Les difficultés, c'était d'avoir accès à des populations qui ne parlaient pas français, donc ça complexifiait la relation de soins. Parfois, une violence un peu latente, avec des agressions, la voiture qui était un peu abîmée, et puis une pression permanente. Je me rappelle, en bas d'un immeuble où je devais rentrer 3 fois par jour pour aller faire des soins chez un patient diabétique, avec des dealers qui avaient 14-15 ans, qui un jour ont décidé qu'ils ne me laisseraient plus rentrer, quoi. J'ai voulu forcer le passage, il a soulevé son t-shirt, il m'a montré qu'il avait un flingue. Donc sur le coup, j'ai rebroussé chemin et je soignais juste après un patient dont le fils était un des grands frères de la cité. Et donc je lui en ai parlé, il m'a dit « mais dis-moi qui c'est ». Bref, je lui ai montré du haut de l'immeuble qui était le jeune homme en question. C'était à un moment où en fait les grands frères étaient partis au bled pour l'été et donc les petits étaient tout seuls, étaient plus cadrés quoi. Et il a discuté, il m'a dit « je vais discuter, tu lui fais pas de mal ». Non, je vais juste discuter avec. Et le lendemain, j'ai retrouvé ce fameux gamin avec toute sa bande en bas du même immeuble. Il m'a ouvert la porte, il m'a dit « bonjour madame », et j'ai eu une haie d'honneur. Et j'ai jamais eu plus de problème, et voilà, donc je me suis dit « ça va loin quand même, c'est compliqué ». C'est pour ça que je suis partie à la campagne après, j'avais besoin d'un peu plus de simplicité dans mon travail. J'avais peur de pas durer dans le temps en restant en cité.
Vous passez beaucoup de temps dans votre voiture, c'est en fait très structurant et équilibrant pour votre métier ?
C'est même important. J'ai quand même une centaine de kilomètres par jour, ce qui est pas énorme par rapport à certaines autres infirmières de campagne, mais ça me permet d'avoir des petits moments de décompression entre chaque personne. Ma voiture, c'est vraiment mon bureau, déjà mobile, parce que j'ai tout mon matériel de travail dedans, mais c'est aussi mon sas de décompression. Quand je sors de chez un patient, ces patients que j'appelle toxiques. C'est affreux comme terme, mais c'est vraiment le patient qui pompe l'énergie. Je sors, je rentre dans ma voiture, je claque la porte, je m'isole un petit peu et je pousse le hurlement primaire. Je prends mon volant et je hurle un coup. Je suis toute seule dans ma caisse et ça fait vachement de bien.
Malgré ces patients toxiques, vous avez toujours la même flamme au fond de vous ?
Bah bien sûr, sinon je serais plus infirmière. Enfin, si je fais ce métier-là, c'est que j'aime les gens. Les patients toxiques, c'est une toute petite partie de ma patientèle. J'ai la chance de travailler avec des gens qui sont quand même cool. Et j'ai quand même beaucoup de patients soleil, je les appelle ces gens-là, qui je ressors de chez eux, je suis bien, j'ai l'impression d'avoir passé un bon moment et bien sûr que j'ai la flamme. Bah, tant que je l'aurai cette flamme, de toute façon je continuerai de travailler. Je crois que ce métier, il a un intérêt que si on prend plaisir à le pratiquer. Le jour où je serai blasée, où je prendrai plus plaisir à soigner les gens, il faut absolument que je change de métier.
Vous avez senti votre personnalité évoluer au fil des ans avec ce métier en contact permanent avec des gens
et... Ouais, je crois que je serais pas la personne que je suis si j'étais pas infirmière. Ce métier, il m'a appris à me décentrer. C'est affreux de le dire, mais je crois que je me suis nourrie de la peine des autres en me disant « Bon, il y a pire que toi. Tes problèmes, ça peut attendre, c'est pas si grave. » Et puis voilà. Et je crois que ça m'a appris à être une meilleure personne. Enfin, j'espère. Et il est chouette, ce métier, pour ça, parce qu'il nous fait vachement grandir.
Ce métier d'infirmière libérale, c'est pas aussi un peu un métier d'entrepreneur ? Vous faites votre compta, le secrétariat, les soins, du coup un peu de social.
Ouais.
Vous vous sentez entrepreneuse ?
Je me sens un peu patronne dans le sens où bah, je paye mon URSSAF, je fais ma comptabilité. Mais bon, je suis une multicasquette, moi. Je suis patronne, je suis secrétaire, je suis infirmière. J'avoue que parfois, je regrette un peu la protection du salariat. J'aimerais pouvoir être malade et me mettre en arrêt de travail. Parce que quand je suis malade, je peux pas m'arrêter, quoi.
En parallèle de votre activité, c'est ce que je disais tout à l'heure en présentation, vous avez lancé votre blog C'est l'infirmière et vous avez publié deux livres chez Flammarion. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ?
J'avais ce besoin de prendre du recul sur les situations de soins qui me posaient question. Et surtout, j'avais besoin de poser les mots sur des situations qui étaient complexes et douloureuses. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé à ce moment-là, c'est d'écrire. Donc j'ai commencé à écrire, d'abord sur Facebook, sur ma page privée. Et puis c'est des amis qui m'ont dit bah c'est dommage parce que moi j'ai des potes infirmières qui pourraient t'intéresser, donc tu pourrais éventuellement faire un blog, comme ça je pourrais partager plus simplement et tout. Donc je me suis dit bon allez, j'écris ça sur un blog, et puis en fait ça a fonctionné. Donc j'ai ouvert la page Facebook peu de temps après et ça a fait un effet boule de neige, et là je me suis rendu compte que ce que je vivais moi toute seule dans ma voiture, on était de nombreuses à le vivre. On est je crois 110 000 infirmières libérales en France. Et ce que je voulais aussi, c'était mettre en lumière mon métier d'infirmière libérale. Parce que quand on pense au métier d'infirmière, on pense direct infirmière des urgences, infirmière de réanimation. La pauvre infirmière libérale de campagne qu'on voit jamais, on n'y pense pas. Et je me suis dit, bah, c'est dommage parce que on a quand même un métier qui est incroyable. On est souvent le seul lien que les gens ont avec l'extérieur, c'est nous. On est vraiment un chaînon important du système de santé en France parce qu'on évite des hospitalisations à rallonge, on se substitue à plein de métiers de santé juste avec notre pratique infirmière en libéral. Et puis je croise des gens qui sont tellement incroyables, qui ont des histoires de vie de dingue que je veux en parler. C'est aussi pour ça que j'ai commencé à écrire sur les histoires de mes patients, parce que je les trouvais incroyables et je voulais garder une trace aussi de tous ces gens qui parfois meurent ou disparaissent, et je voulais garder une trace d'eux un peu de façon infinie sur le net. Voilà.
Après le blog, comment vous en êtes venu au livre ?
C'est le livre qui est venu à moi. J'avais pas la prétention de me dire que mon petit blog allait un jour finir en bouquin. Mais ça a été le grand moment où on a eu beaucoup de manifestations infirmières, où là j'ai écrit beaucoup d'articles coup de gueule pour mettre en évidence que la communauté infirmière vivait quand même un métier qui était fatigant, épuisant, qui avait un gros ras-le-bol. Et c'est remonté jusqu'aux oreilles de Fleur Darcourt, qui est une éditrice qui, à l'époque, travaillait chez Flammarion, qui m'a contactée pour me dire « Bah voilà, on aime bien vos écrits, on essaye de sortir un livre écrit par une infirmière, est-ce que ça vous intéresse ?» J'aime dire oui aux opportunités qu'on m'offre parce que je me dis à chaque fois « Si ça vient à moi, c'est qu'il y a une bonne raison. » Donc j'ai dit oui, et je regrette pas parce qu'un autre livre est arrivé derrière, il y en a eu deux en tout. Et je suis fière de les avoir écrits, et je sais que c'est des livres qui font écho à beaucoup d'infirmières, donc j'en suis bien contente.
Quand on est devant la première page blanche et qu'il faut se lancer, vous ne trembliez pas un peu ?
L'écriture, c'est pas quelque chose de simple. Hein. Entre l'écriture de blog et l'écriture de livre, ça n'a absolument rien à voir. Les deux livres que j'ai écrits, là je suis en train d'en écrire un troisième, ça se fait toujours dans les larmes. Ah, je les écris avec mes tripes, je les appelle mes bébés de papier. Ça a été pas mal de souffrance, mais c'est pas parce qu'on souffre de quelque chose que c'est pas beau au final, donc...
On comprend bien que vous êtes une communicante, donc vous êtes également sur les réseaux sociaux. Vous avez été l'infirmière francophone la plus suivie sur Facebook.
Ouais.
Ça fait quoi de... On est fiers ?
Ça fait bizarre de se dire qu'effectivement, on est pas mal suivis. Alors Facebook, je pense, c'est plein de toiles d'araignée sur mon compte, hein, parce que j'y suis pas allée depuis longtemps et... Je crois que je suis à plus de 30 000, si c'est pas 40 000, je crois, sur Facebook. Mais j'y vais plus, donc...
Maintenant, c'est Instagram.
Maintenant, c'est plus Instagram. Mais bon, après, je suis pas non plus la Kardashian du soin. Hein. Je suis pas... je suis pas suivie de ouf non plus, quoi. Mais je le fais, voilà, par plaisir. Ça m'amuse de le faire.
Vous avez pas mal de followers donc sur Instagram. Forcément, vous vous exposez à la vie des gens. C'est difficile.
Ben, j'expose bien ce que je veux, hein. De toute façon, dans la limite du respect de ma vie privée. Donc, j'expose pas mes enfants, j'expose pas mon mari, j'expose pas mes patients non plus. Personne connaît mon nom de famille. Les hommes deviennent des femmes, les chats deviennent des chiens dans mes histoires. L'idée, c'est de confier des choses importantes de mon métier sans que ça mette à mal le secret professionnel.
Quand on réussit tout comme ça, livres, blogs, les réseaux sociaux, est-ce qu'à un moment, on n'a pas peur de se perdre et de devenir plus influenceuse qu'infirmière ?
Je pense que derrière la réussite, les gens oublient un peu à quel point on peut en baver. J'ai un karma qui fait que rien ne s'acquiert avec facilité chez moi, donc je loupe généralement tout ce que j'entreprends et je refais pour faire en mieux. Donc rien n'est facile dans ma vie depuis toujours, mais ça je le prends avec philosophie et je sais que ça sera toujours comme ça, mais je me suis jamais dit que j'allais devenir influenceuse. Déjà ce terme me gonfle, j'aime pas du tout ce terme-là et non, du tout. J'ai une famille, j'ai mes parents qui me rappellent aussi d'où je viens et jamais je me suis dit que je valais plus que ce que je vaux et que non, je suis enracinée solidement. Vraiment, j'ai bien la tête sur les épaules.
Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir effectué une marche arrière par rapport justement à cette exposition et pour plus vous préserver ?
La marche arrière, elle s'est faite après le flash mob. J'avais mis en place, via mon réseau sur Instagram et sur Facebook quand j'y étais encore à l'époque, un grand mouvement de contestation qui était basé sur des lettres envoyé à l'Élysée. Je me suis dit, bon bah, comme on manifeste et qu'il ne nous écoute pas, s'il ne nous écoute pas, il va peut-être nous lire. Donc, j'ai mis en place des courriers types. C'était le fameux flash mob postal. Tous ensemble, en même temps, on envoie des courriers. On est quand même monté à plus de 50 000 courriers envoyés à l'Élysée. Donc, moi, naïvement, je me suis dit, il va comprendre, quoi. Rien du tout. Et là, j'ai perdu ma cape de super-héros avec le slip qui va avec. Et j'ai tout perdu. Et je me suis dit, à quoi bon ? Et j'ai commencé à lâcher Facebook à ce moment-là, j'ai lâché les réseaux et j'ai lâché cette envie de pousser des coups de gueule pour une profession qui n'était pas entendue, quoi. Ça faisait déjà plus de 7 ans que j'étais infirmière. Il faut savoir qu'en France, on a une dame de péremption, les infirmières. À partir de 5 ou 7 ans, la majorité des infirmières quittent le métier. Je me suis dit, bon, bah, la place aux autres, la place aux jeunes, moi, j'ai plus envie.
Est-ce que vous avez un souvenir particulièrement émouvant en tant qu'infirmière ?
C'était une dame chez qui j'ai allé plusieurs fois par jour et qui était très malade et qui un jour a fait une hémorragie massive. Elle s'est vidée de son sang par la bouche. Et j'étais là et j'ai dû gérer cette mort imminente qui approchait, le mari qui était dans un état épouvantable, l'arrivée des pompiers, l'arrivée du SAMU. Et ça a été un moment assez dingue parce que j'avais l'impression que c'était même pas moi qui étais là. J'agissais pas comme un robot, mais... les mots pleins d'empathie qui visaient à la rassurer étaient les bons, bien placés au bon moment, la voix était nickel, le positionnement du corps était parfait. Franchement, enfin, je faisais les choses vraisemblablement bien. Et je suis rentrée dans ma voiture et c'est là que j'ai capté que ma voiture était un outil important de mon soin. Parce que c'est au moment où j'ai claqué la porte de ma voiture que je me suis retrouvée dans mon sas de sécurité. Où là, j'ai lâché les vannes, j'ai chialé tout ce que j'ai pu.
Est-ce que dans votre carrière, il y a un moment où vous avez eu envie de rebrousser chemin ? C'était trop dur, la marche était trop haute, vous vous sentiez pas capable ?
Je crois que c'était le jour où j'ai dû dire au revoir à mon patient pote. Il venait de décéder, c'était la cérémonie, et j'avançais comme tout le monde dans le cœur de l'église jusqu'au cercueil. Il y avait une jolie photo de lui qui souriait, et quand j'ai posé la main sur son cercueil, je me suis dit « je peux plus ». Si je dois avoir encore d'autres patients que je dois quitter comme ça, c'est affreux. Enfin, je veux plus. Du coup, je sors de l'église et je suis auprès de toutes les personnes qui sont sur le parking, qui attendent que le cercueil ressorte. Et je mets mes mains dans mes poches et je tombe sur ce papier, une feuille que j'avais vue chez lui la première fois que je l'ai soigné, qui était aimantée sur son frigo. Et sur la feuille, il était écrit « Quand on est mort, on ne sait pas qu'on est mort. C'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est con, c'est pareil. » Et cette petite phrase magique m'a redonné de l'élan. Depuis, je l'ai toujours dans mon portefeuille, elle ne me quitte pas. Et quand des fois je souffre de situations de soins parce que j'y mets du cœur et que ça me fait mal, je me dis qu'il y a quand même eu tellement de beaux moments avant que ça vaut bien quelques larmes.
Est-ce qu'on s'habitue jamais à côtoyer la mort ?
Bien sûr que non. Il n'y a pas de belle mort. Même quand l'accompagnement de fin de vie se passe bien, il n'y a jamais de belle mort. Enfin, c'est toujours une vie qui se termine et quelqu'un qui part et c'est toujours compliqué.
Quand vous vous retournez sur votre carrière, il y a un moment qui vous rend particulièrement fier ou qui vous satisfait plus qu'un autre ?
C'est les merci. Ils ne sont pas fréquents, les merci. Parce que c'est une logique, on soit là pour les gens, donc les gens ne pensent pas forcément à nous remercier. Mais quand on a des merci sincères, bah notamment après des soins palliatifs, quand on a accompagné quelqu'un et qu'on a la famille, et que je reçois les remerciements de ces familles qui m'ont fait comprendre que j'avais été là dans un moment important de leur vie, ça me redonne l'énergie de continuer en fait. J'ai besoin que de temps en temps, on me rappelle que je fais les choses bien et que ma présence est importante.
Quel a été votre plus gros défi jusque-là ?
Ça a été pour moi de réussir à comprendre l'émotion de l'autre sans la partager. Parfois, les patients me confient des choses dramatiques. Et c'est difficile à ce moment-là d'être au-delà de l'empathie. Dans ces moments-là, je prends du recul, je m'analyse et je me dis, ouais, partage pas. Et c'est quelque chose que je me rappelle beaucoup. C'est un espèce de mantra que j'ai de me dire, la vie des gens, c'est la vie des gens. C'est pas la mienne. Donc de surtout me rappeler que ce qu'ils me confient, c'est leur vie, c'est pas la mienne. Donc attention à surtout rien partager de leurs émotions. Quoi.
À l'inverse, quel est votre prochain Everest ?
À titre personnel, c'est l'écriture de mon troisième livre. À titre professionnel, j'ai pas de projet en fait, si ce n'est continuer à prendre plaisir à travailler.
Vous avez un mantra qui vous guide ?
La vie des gens, c'est la vie des gens. C'est vraiment celui que je me rappelle le plus souvent au travail. J'en ai un autre que j'utilise pour mes patients, pour le coup, celui-là, c'est « Mieux vaut une infirmière en retard que pas d'infirmière du tout ». Parce que parfois, les patients ont vraiment les yeux rivés sur leur horloge et ils comprennent pas bien que je ne peux pas être à l'heure tout le temps. Si je peux en mettre un autre de mantra. Je me dis souvent, ce qui doit se faire se fera et ce qui ne s'est pas fait ne devait pas se faire.
On va revenir à un de mes sujets de prédilection qui est l'automobile. Donc on en a déjà un peu parlé, vous passez beaucoup de temps dans votre voiture. Est-ce qu'il y a un accessoire qui ne vous quitte jamais quand vous prenez le volant ?
C'est ma boule à facettes.
Votre boule à facettes ?
Oui.
Qui vous sert à quoi dans la voiture ?
J'ai une boule à facettes qui se branche sur mon allume-cigare. Elle me sert à m'ambiancer quand je suis plus trop dans le mood, quoi. Quand je finis une tournée qui a été lourde toute la journée, je rentre chez moi et je sens que je vais avoir du mal à couper durant ces 10 minutes que j'ai de voiture pour rentrer chez moi. Je me mets ma playlist, je mets ma boule à facettes dans mon allume-cigare. Et du coup, je m'ambiance sur je m'ambiance visuellement et puis avec de la musique pour m'aider à passer à autre chose.
Quel est votre meilleur souvenir en voiture ?
J'adore croiser les chevreuils, j'adore croiser les sangliers, j'adore... Un jour, je suis passée à côté d'un renard qui n'était pas du tout sauvage et j'ai pu rouler hyper doucement à côté et on a croisé nos regards. Et je trouve ça juste magique à chaque fois. J'adore ça. Et les couchers de soleil. Je suis une fanatique des petites choses que je trouve jolies et c'est vrai que la nature est splendide. J'adore bosser pour ça en libéral, c'est que... Ah, je respire, je suis dehors, quoi. J'ai vachement bien.
Au contraire, quel est votre pire moment passé en voiture ?
Un jour où il avait gelé sur de la neige. On est en Anjou, hein. Donc moi, j'ai pas l'habitude de rouler sur des routes de l'Est de la France enneigées. C'est toujours ma crainte de casser ma voiture. Parce que si je casse ma voiture, je suis embêtée sur le reste de ma tournée. Donc autant me mettre au fossé. Bon, je connais les agriculteurs du coin, donc on peut me sortir facilement d'un fossé. Mais par contre, si je m'accidente, ouais, c'est plus la crainte de perdre mon outil de travail.
Au volant, vous êtes plutôt zen, énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique, des podcasts.
Un jour, je me suis retrouvée derrière une voiturette. Et j'ai failli la doubler ce jour-là, et j'ai une petite voix qui m'a dit « Non, on reste derrière ». Je suis restée derrière, et genre, même pas 10 secondes après, il y a 5 chevreuils qui sont passés devant cette voiture-là. Et je pense que si je l'avais doublée, je me les prenais. Suite à ça, du coup, j'ai changé ma façon de conduire. Donc maintenant, beaucoup plus zen et... Toujours avec une bonne ambiance musicale. Je peux pas travailler sans musique, j'ai besoin de musique, donc j'adore chanter faux derrière mon volant.
Et pour finir, comme le veut la tradition de Parole de Femmes, on part en road trip. Charline, vous nous emmenez où ?
Moi, je vous emmènerai en Martinique. Les routes en Martinique sont quand même particulières, mais entre les traces du Nord, où on passe en espèce de forêt tropicale, où il fait presque 12 degrés, aux chaleurs étouffantes du sud de l'île, où on longe en voiture les plages où il fait 30, c'est juste du bonheur. La voiture en Martinique, j'adore ça.
Charline, au revoir et merci pour ce moment plein d'humanité.
Merci beaucoup.
C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, Elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leur victoire comme leurs doutes. Parole de femmes.